Sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Ce soir, Mel et Max, on est en live sur TikTok. Le TikTok de La Sexploratrice. On vous invite également à suivre le TikTok de choix 98.1 Radio X. Vous pouvez déjà voir notre invité qui est déjà en studio avec nous. Je vous donne un indice, c'est l'invité que vous préférez. C'est notre invité hebdomadaire. Mais juste avant, Max, belle journée.
Belle journée? C'est ça à moi que tu demandes ça? T'as dit mon nom hein, quand tu as dit Max, belle journée. La journée a été longue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y répondre.
C'est ça qui arrive. Moi aussi, je bois du Coca-Cola pour essayer de me...
C'était la première fois que j'entendais ça, le boire du coke pour se réveiller. C'est-tu censé réveiller? Je sais qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans.
Moi, tout ce qui contient la caféine, du sucre, du chocolat, ça me réveille et ça m'empêche de dormir. Là, voulant pas prendre de café à cette heure-là, je me suis dit, je vais prendre un Coca-Cola. Et c'est un petit 250 ml, tu sais, les mini-bouteilles.
Ouais, mais
avec ça, j'ai le bon jusqu'à minuit.
La caféine dans le Coca-Cola, sérieux, ça te réveille?
Ouais.
C'est comme le sucre dans le riz.
Coca-Cola,
là,
ça me réveille beaucoup.
Tu feras pas du diabète à manger du riz, là.
Ben non, mais. Non, mais toi, ça. Non, ça t'excite pas?
Sweet fuck out!
Ah, moi, je suis très sensible à tout ça. Même quand j'étais jeune, quand je buvais du quick, si je buvais deux ou trois quick en ligne, je saignais du nez.
Pas vrai?
Oh oui! Ça fait monter ma pression.
Ben voyons
donc. En tout cas, ça a toujours été ça.
Ah, j'étais un grand amoureux de quick aussi quand j'étais jeune.
Moyen.
Quick en poudre, là, t'en mettais comme tu voulais. Puis ce qui était le fun, c'est que tu ramassais le fond à cuillère après. Comme un vrai dégénéré.
Moi, je buvais tout mon quick à la cuillère.
Ah,
je le savourais. Ah oui!
Avec des Smarties.
Oh, on a la recette ici.
Ça sent le diabète, par contre.
Oui.
Je mange plus de sucre maintenant.
Mesdames et messieurs, dites-nous d'où est-ce que vous nous écoutez, le 418-670-9098. Joignez-vous à nous sur le live TikTok La Sexploratrice ou contactez-nous par téléphone. Toujours un plaisir de vous parler. On va tout de suite rejoindre notre invité.
Le doc.
Le thérapeute compatissant bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Docteur Paul Simard, psychologue que je n'avais pas vu depuis tellement longtemps.
Bonsoir, cher collègue.
Bonsoir, Paul. Comment ça va?
Ça roule.
Ah, ça roule, ma poule.
Je suis dans une disposition, ma foi, forte de bonne humeur.
Ah, ben nous sommes ravis de l'apprendre. Comment ça, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu Paul?
Mais non, mais c'est pas vrai. On s'est vu il y a quelques heures.
À 6 heures, on était dans le show.
Toute la semaine, je suis dans le show sans détour avec Nick.
Ah, c'était un gag.
Mais oui.
OK, à soir, là, je suis à moins 4 au niveau de la vitesse intellectuelle. OK, il va falloir vous donner une chance.
Je note.
Je note. Hey, en passant, là, les publicités, là, ça, c'est là, Calinette, là. Calinette.
Oui, ils ont fait une nouvelle.
Mais c'est un jingle d'enfer.
Mais ça n'a pas de bon sens, là. Je suis plus capable de me l'enlever et je suis très heureuse de vous l'avoir mis en tête.
C'est ça que j'ai repassé cette semaine, justement, en parlant de Calinette. Max, les tapis sont propres! Te souviens-tu du chien, Calinette?
Oui,
je m'ennuie de ça, moi, la bonne vieille époque où il y avait un chien qui représentait une entreprise de nettoyage. Non?
Pas connu ça, oui.
Ben oui, t'as connu
ça. Mais c'est dans le pub de Calinette?
Ben oui, c'était dans le pub de Calinette. Max!
Peut-être
plus
localisé Montréal, peut-être?
C'était, j'habitais à Québec dans ce temps-là. Okay. C'était à la même époque où c'était à la mode.
Groupe Calinette pour un travail sans retouche.
C'était à la même époque.
C'est.
Ah oui, comment l'oublier? On fait une belle pub, quand même. Non, mais c'était à la même époque.
Son client.
Où c'était à mode de faire des films avec des chiens. Là, puis, mais c'est encore à mode aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait le Toby, le chien qui jouait à des sports. Là.
Moi, je suis plus
un pot de frisbee, un pot de ballon.
Vagabond.
Ah oui.
Je pourrais vous faire la toune du vagabond facile.
Vas-y, fais-nous la.
Il est une fois, il m'appelle et me suit au fil des routes. Je l'entends et me dit, quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis.
Ah là là, c'est ça, ça sera une belle soirée.
Je vais vous parler de liens affectifs.
Mais on t'a pas demandé comment ta journée avait été, toi.
Ah, moi, c'est une journée rocambolesque, un peu hangover, mais ça va.
C'était ta fête hier?
C'était ma fête hier soir après le show, mon amoureux. En fait, c'est ça, c'est que il voulait me préparer une grosse affaire. Puis toi, j'ai dit non, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on fasse rien.
C'est le fun de rien faire.
Oui, c'est le fun de rien faire. Fait qu'on a bu des bulles, mangé des sushis, puis c'est ça. On a passé une belle soirée.
C'est cool, couché
tard. Puis c'est ça. Mais écoute, ça a été une magnifique journée aujourd'hui dans Sans détour avec Nick. C'était toujours, toujours très agréable aussi, ce show-là. Tabarouette, j'ai du fun.
Ah oui, c'est le fun.
Ouais, vraiment. Donc, mais on va animer notre show à nous, hein, ce soir. On va parler de différents trucs. Mais on va commencer avec quelque chose qui touche quand même beaucoup de gens. Je l'ai déjà vécu, vous l'avez peut-être déjà vécu, et c'est quelque chose, en tout cas, que moi j'arrive à gérer facilement, mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Et on parle ici des ex qui font du marquage émotionnel.
Ah.
Donc, Simard, pour donner un exemple aux gens, des ex qui font du marquage émotionnel, on pourrait dire, par exemple, un ex qui continue de complimenter, envoyer des petits mots.
Oui.
Alors que l'autre personne est en couple avec une nouvelle personne.
Ouais, ben il y a des gens qui rôdent tout le temps autour hein, de leurs ex. Hein. Ils laissent la personne, mais ils maintiennent des contacts. Puis là, ça crée constamment une espèce d'impression de lien avec cette personne-là. Ça entretient le flou. Ça peut peut-être même créer de la confusion dans l'esprit de certaines personnes, alors que d'autres, ça va être parfaitement correct. Mais je trouve que la théorie qui m'a été présentée, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant.
Juste avant d'aller à la théorie, qu'est-ce qui fait qu'un ex se permet d'écrire à la personne et renvoie... Tu sais, je veux dire, si quelqu'un fait ça,
ouais.
Est-ce que c'est parce qu'il y a une ouverture de la part de... Tu sais, mettons qu'il le fait à répétition. Mettons qu'il le fait une fois, puis qu'il n'y a pas de réceptivité de l'autre côté, là, je veux dire, c'est un effronté de le refaire et de le refaire.
Ben ça, je pense que c'est que les gens remplissent le vide avec leur propre désir. On le voit sur les applications de rencontre, on le voit avec le comportement avec les ex notamment, c'est que devant le silence, les gens se disent pas « Ah, OK, donc si l'autre ne me répond pas, c'est qu'il ne veut pas. » C'est rare que les gens comprennent ça.
Ouais, puis je pense qu'on est d'autant plus permissif quand on a un lien ou on a déjà eu un lien d'intimité avec une personne.
C'est ça, parce que dans l'intimité, quand il y a eu la création d'un « nous », c'est comme si la personne a laissé une partie d'elle-même à l'intérieur de vous. Mais quand elle rôde autour et qu'elle vous lance un message ou qu'elle vient voir, c'est ça, à quelque part, c'est comme si elle vient voir, ça sent-tu encore moi dans ce secteur? C'est un comportement qui me semble très archaïque, moi, relié à des réflexes animaux de survie.
Ben oui, mais là, est-ce que c'est que la personne entretient un espoir caché?
Pas forcément. Des fois, c'est des comportements réflexes.
C'est pour nourrir son ego?
Ça peut l'être, ça. C'est multiniveau.
Mais il y a vraiment deux écoles de pensée là-dessus. Hein. Il y en a qui disent on ne reste jamais ami avec son ex ou on ne lui écrit plus quand la relation est terminée ou on peut rester ami avec puis entretenir un certain lien parce que justement on a aimé cette personne-là puis il s'est passé bon X ou X choses durant notre histoire. Vous pensez quoi de ça, vous autres? Est-ce qu'on entretient contact avec notre ex même à titre amitié seulement?
Moi, personnellement, je restais ami avec. Ben, restais ami, je veux dire, j'ai pas barré personne de ma vie.
Mm-hmm.
Même que, à la limite, c'est mon dernier ex, c'est sa blonde qui m'a barré pour. Je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Pourquoi ça a été menacé? Parce que j'ai pas de contact avec mes ex, autre que de temps en temps, ça va être un bonne fête ou félicitations pour ta promotion ou félicitations.
Ouais,
on est comme fiers, ou, mais c'est juste un petit. Il n'y a pas de.
Mais pourquoi tu ressens le besoin de faire ça?
Ben,
de
comme,
féliciter
comme...
pour quelque chose qui arrive dans sa vie alors que tu n'es même plus dans sa vie. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, mais non, mais tu sais, ça reste quand même que c'est quelqu'un que je peux croiser. Tu sais, ça reste dans mon cercle de connaissances, mettons. Fait que tu sais, c'est le même niveau que mes autres amis.
Ouais,
là.
C'est
il devient au même niveau que toutes mes autres amis que je féliciterais.
C'est ça.
Autant.
Mais la nature des relations sociales, c'est super complexe. Hein? Puis moi, je pense qu'il faut vérifier, est-ce que la relation, elle s'est transformée avec la séparation ou... Il y a une personne qui nourrit encore de l'espoir de continuer. C'est pas exactement la même chose. Hein.
Ouais.
S'il y a une franche distinction, puis que intérieurement il y a de quoi qui a changé, les gens peuvent continuer à être amis. Il y a
mais amis, c'est ça. Là, on parle même pas d'être amis, c'est d'avoir un lien virtuel ou de se croiser dans des événements. Mais tu sais, mis à part le père de mon fils que je vais voir pour faire des activités, mais que sa blonde est là, tu sais, je veux dire, on est comme toute une famille reconstituée. Là.
Mm-hmm.
C'est le seul ex-ami vraiment qui est dans mon cercle d'amis. Là.
C'est ça. Tant que ça reste dans des banalités d'usage puis des platitudes, peut-être, là, tu sais, félicitations,
bonne fête. Il n'y a pas de cruise.
Oui, mais il n'y a pas aussi de « Hey, comment ça va? Parle-moi de toi. » Il n'y a pas d'engagement tant
non,
que ça dans
ça,
ce que tu entretiens avec tes ex.
Exact.
Ça veut dire que toi, tu n'irais pas prendre un verre avec un?
Non.
Les
ben non, pourquoi faire ça?
Non. Ça, je ne verrais pas, je vois pas le but, à moins d'inviter mon chum à venir.
Ouais,
donc,
ça.
Mais est-ce que tu te considères quand même ami avec tes ex? Est-ce que tu, le mot ami pourrait définir cette relation-là?
Ça revient à la base connaissance, tu sais.
Connaissance. OK, connaissance, c'est ça. Parce c'est que plus... ami, tu vas prendre un verre avec. Connaissance, bah, bonne fête. Ça, mais... ça se limite à ça.
Ouais.
Il y a tellement de degrés et de formes de relations que
oui.
Sûrement que juste le fait de soulever la question, les auditeurs éprouvent même une angoisse qui doit circuler en disant « Moi, j'accepterai jamais ça! » ou « Ben non, il n'y a pas de problème. »
Exact. C'est... On est curieux de savoir. 88-670-9098. On reste amis ou non avec nos ex? À quel niveau, là? Qu'est-ce qui est acceptable ou non? Et moi, ceux qui restent amis avec leur ex et qui vont prendre des verres et qui s'écrivent en privé, qui se racontent des insights, des trucs comme ça... Si ton ex est vraiment ton ami, il ne devrait pas y avoir de problème à le présenter à ton amoureux ou ton amoureuse.
Oui.
Effectivement.
S'il y a un problème là, pose-toi des questions.
Mais il y a quand même un problème peut-être aussi de l'autre côté. Tu sais, je veux dire, je sais pas moi, mais je me fais une blonde demain matin puis elle veut me présenter son ex. Pas sûr, ça me tente.
Ben ça dépend.
Sincèrement, là, même si sont amis, je suis comme, hey, j'ai pas envie de le rencontrer, ton ex.
Ben moi, ça dépend. J'ai déjà fréquenté un homme qui avait une ex-conjointe dont, bon, ils étaient parents d'un enfant handicapé, puis tout ça. Puis eux, ils étaient vraiment restés amis. Puis pour lui, c'était important, puis ça, il a été clair dès le début, c'était très important que cette femme-là, je la rencontre, puis que, tu sais, qu'ils comprennent qu'on a des appels, on va les prendre.
Oui, allez, Radio X, bonsoir.
Allô, c'est René.
Salut, René, comment ça va?
Ça va bien?
Oh, on t'a perdu.
Oh, René, on t'a perdu.
René.
Disparu.
OK, ben rappelle-nous, mon cher René. On va retourner en ligne. Radio X, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Ça arrête pas de bien aller, toi?
Ben oui, il faut que ça aille bien, absolument.
Ben oui? Est-ce qu'on reste amis ou non avec nos ex?
Ben, personnellement, je dirais que non, mais... Si, exemple, c'est le père des enfants, ben moi, je pense que c'est important de garder un minimum de relations.
Faire des activités avec lui, mais avec les enfants, disons, exemple.
Non. Non, pas
OK, donc ça serait juste de garder un bon terme sans être ami.
Oui. Ben, ça dépend. Mettons que tes enfants vieillissent, puis t'es séparés, puis ils font un réveillon de Noël, ben, tu sais, je pense que c'est important d'être capable d'y aller.
C'est ça.
Ouais, mais ça va dans la bienséance. Là. Voilà. C'est bien s'entendre avec son ex pour le bien des enfants.
Ça, c'est important de le faire pour les enfants.
Oui.
Exact.
D'accord avec ça. Merci beaucoup pour l'appel.
Oui.
Hey, merci.
Merci.
On retourne ça en ligne?
Yes.
Allons-y, Radio X, bonsoir.
Bonsoir.
Allô, est-ce qu'on reste amis ou non avec ses ex?
Oui.
OK, bon. À quel degré?
Ben, j'ai des amis de mes. J'ai des chums de gars avec qui je vais prendre des verres, je fais des activités au même degré.
OK. Donc, toi, tes ex, une fois que t'es plus avec, que ce soit elle ou toi qui l'ai quitté, tu peux aller prendre des verres avec.
Oui, il n'y a pas de problème. Ben, tu sais, en autant que le côté amour est fini. Tu sais, c'est sûr que si je suis encore dans l'émotion, tu sais, que je peux pas dire que c'est une rendue, une amie au même titre que. Un ami de gars ou que tu sais j'aurais espérance qu'elle revienne ou whatever ou que je sens l'inverse, c'est pas pareil. Mais tu sais, j'ai deux de mes ex, ça fait respectivement 5 ans et 10 ans que je suis plus avec eux, puis je fais encore des activités avec eux, je vais encore manger au restaurant, des choses comme ça.
Quand tu vas manger avec eux, est-ce que tu sens à un certain moment qu'il faut que tu annihiles l'attirance que tu peux avoir entretenue envers eux? C'est-à-dire, est-ce que quand, à un moment donné, dans le souper, tu te dis « Ah, il me semble qu'elle m'attire encore un peu » ou plus pantoute?
Non, pantoute.
OK.
Pantoute, c'est terminé. Ce bout-là, il est complètement sorti de ma vie. Je suis complètement passé à autre chose parce que au-delà de... pour moi, ce que je pense... C'est que au-delà de d'être ma conjointe à l'époque, c'était aussi une amie.
Ah, c'est ça, là. OK. Donc, c'était une amie, c'est devenu une amoureuse. Puis, est-ce que à ta nouvelle conjointe, tu la présenterais?
Tout à fait.
C'est ça. Fait que ça, je pense que ça peut être... Parce que, tu sais, quand j'y repense, personnellement, j'ai des ex avec qui je fais des affaires, tu sais, qui sont dans l'événementiel. Donc, je pense qu'il y a lieu, parfois, de pouvoir garder une certaine forme d'amitié ou de relation saine. Mais il n'y a pas d'histoire de se crouser ou de trucs comme ça.
C'est jamais arrivé, mettons, avec un verre dans le nez, qu'il y a des petits regards complices qui s'échangent, puis...
En tout.
Non, des petits sourires en coin.
Mais c'est célibataire, pourrait bien.
Ouais.
Ah, même pas célibataire.
All right, bon, ben, parlons de ça.
Mais merci beaucoup pour l'appel.
Ça fait plaisir.
Merci. Yes, on en prend un autre.
On y va. Radio X, bonsoir.
Salut, ça va?
Ça va bien, toi?
Pas de bonne année.
J'arrête pas de bonne année. Ouais, j'ai 5 ans, j'étais avec ma blonde, avec ses enfants, ma père, puis ma famille, puis le père de ses enfants, son ex, dans le fond. Ben, il savait pas trop quoi faire le 24, puis c'est moi qui ai dit, ben, Chris, qui vient.
Oh, wow!
Puis finalement, il est venu, mais je ne vais pas être exprès, je n'ai pas fait des French là, devant lui, puis quand même, là, je veux dire, on attendait à minuit qu'il crisse son gant, puis let's go, mais, mais sérieux, ça a été vraiment un beau réveillon.
Mais c'est le fun, c'est ça, quand il y a une belle relation entre les... Surtout les parents, je pense que c'est important de rester en bon terme. Assurément ouais. En bon terme. Être ami, pas obligatoire, mais être en bon terme pour les enfants. Puis de pouvoir se rassembler comme ça, sans problème, lors de fêtes importantes, des fêtes familiales, là, c'est précieux, là, vraiment. Donc, ben, bravo à vous, c'est vraiment inspirant.
Ouais, merci. Mais je vais pas nécessairement prendre des verres avec mes ex.
Non, puis là, on parle d'un moment où c'était Noël. C'était particulier ouais. Quand même. Il y a la magie des fêtes. En temps normal, toi, tu irais pas prendre un verre avec ton ex. Puis est-ce que tu t'attends aussi à ce que ta blonde fasse la même chose?
Ouais, quand même, ouais.
Pourquoi?
Bon, faut quoi aller chercher des problèmes, tu sais. Mettons, tu serais le père des enfants, je comprendrais de faire de même, mais aller prendre des verres avec ton ex, quoi que ce soit.
C'est ça. Même chose.
Que ça changerait, tu sais, ça va changer quoi dans ta vie, à part peut-être créer des conflits. Mais voilà. Le truc là-dedans, c'est juste d'avoir des fuck friends. T'auras jamais de problème.
Voilà.
C'est ça a été dit.
Merci beaucoup pour l'appel.
Bye-bye.
Hey, les lignes sont pleines, hein? Vraiment, là, oui, je pense qu'on a sacré un coup de pied dans un oui. Hit-dip.
Restez ou non ami avec son ex?
On en prend-tu un petit dernier, mettons?
Un petit dernier.
OK, Radio X, bonsoir.
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 Allô?
Oui, dans le fond, moi, je n'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit, là, mais moi, j'ai juste 23, mais moi, je me dis que, bon, moi, je suis retourné deux fois là avec une de mes anciennes blondes, puis tu sais, je me dis... Ben, ça se peut que ça remarche une autre fois. Il y a comme un concept de ça se peut que, bon, les conditions étaient pas bonnes, mais dans le futur, ça se peut que ça revienne. Fait que ouais. Un ex, tu restes quand même un peu lié avec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
C'est beaucoup
d'un
le genre
des
d'histoire.
Deux côtés, il pourrait y avoir de l'espoir. Pour un, ça peut être réglé, mais pour l'autre, il pourrait y
ouais,
avoir
ouais,
de l'espoir.
Oui, exactement, exactement. Fait que ça peut-être pas marcher une fois. Si ça revient, ben, on reprend comme quelque part. Je sais pas si tu. Mm-hmm. Ça fait en sorte que, bon. Oui, on s'est séparés, mais on est encore un petit peu liés par quelque chose. Je sais pas. Moi, je garde une bonne relation avec mes ex, mais tu sais...
Sans faire des amis avec elle.
C'est ça. C'est pas plus
alors,
que
alors,
ça.
Alors, tu fermes jamais vraiment de relation?
Ouais, mais c'est pas que c'est complètement fermé, mais t'es quand même lié avec cette personne-là. Tu la croises au magasin, tu vas lui dire salut, tu vas pas avoir la même réaction que tu vas avoir avec un parfait inconnu non plus, là.
Mm-hmm.
C'est ça. Il y a des gens qui, parfois, en clinique, là, ils me racontent des histoires un peu similaires où ils vont saboter leur relation de couple en laissant ce genre de contexte-là ouvert. Parce que quand on est fragile, là, c'est dur s'engager ça, dans la vie conjugale puis passer à travers les moments pas beaux ensemble.
Les styles d'attachement évitants doivent être...
Oui, c'est ça. Puis si, dans les moments difficiles, il y a quelqu'un qui va chercher la réassurance auprès d'un ex, bien là... Il se passe toutes sortes de mécanismes à l'intérieur de la biologie. Là. Ça réactive ouais. Les circuits d'attachement. Ça réactive les sentiments qui étaient arrêtés à l'époque. Ça fait comme repartir la machine affective. Donc, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vont se séparer en n'étant pas au courant qu'il y avait une crise dans le couple. Donc, plutôt qu'aller chercher le réconfort dans une autre relation, ça serait peut-être bien d'informer votre partenaire qu'il y a une crise dans votre couple, que vous sentez cette attirance-là ailleurs ou que vous avez besoin d'aller chercher du réconfort. Puis là, oh, là, on parle des vraies choses.
Ouais. Hey, merci d'avoir appelé, mon ami.
Merci beaucoup pour l'appel.
Merci, salut. Vous pensez quoi de la vieille phrase du vieux adage qui dit « Revenir avec son ex, c'est revenir dans le passé ».
Ça dépend, selon moi. Mm-hmm. Ça dépend si les personnes ont évolué, ça dépend de tellement de facteurs.
Ouais.
Je vois des couples qui ont fonctionné super bien, ils se sont séparés environ 10 ans. Ils ont repris ensemble, puis ils sont ensemble et très heureux.
On avait glissé un mot là-dessus la semaine passée, je pense.
Oui.
Qu'est-ce qui reprend? Est-ce que c'est le pattern ou si c'est la relation avec la personne?
Voilà.
La personne a-t-elle changé ou c'est exactement la même affaire? Puis c'est vous-même, ça. Réengagez-vous exactement le même mécanisme?
Êtes-vous amoureux du potentiel de la relation qui ne sera jamais ce que vous espérez? Vous allez retomber. C'est vrai, on tombe amoureux.
Il y a des
amoureux.
Gens qui disent qu'habituellement, les gens ne changent pas. Ah, moi, je trouve ça terrible, ce genre de croyance.
Moi, je pense que les gens peuvent changer, par contre.
Les gens peut-être restent fondamentalement les mêmes dans leurs racines profondes, mais ils évoluent constamment.
Mais oui!
Les gens, donc, on peut dire que les gens changent là, en toutes circonstances, puis tout au long de
leur
vie.
Moi, j'en suis la preuve, donc j'y crois fortement.
Ben, j'ai changé, moi aussi. Là. Hey, je vais te dire une histoire, il y a une époque de ma vie où c'était olé, olé. Là.
Ben, moi aussi, j'ai évolué en tabarouette. Ben, là, oui, quand je regarde mes relations passées versus je les gère pas du tout de la même façon.
Ben,
là.
C'est ça. Mais quand vous entendez quelqu'un qui va dire dans une phrase « jamais » ou « toujours », il est probablement en train de faire une malédiction auto-administrée. C'est ce qu'on appelle en psychologie des croyances limitantes. C'est une barrière que la personne va se mettre et qu'elle va penser qu'il est normal. Là. Donc, lever ce verrou-là, ça demande beaucoup de travail sur soi. Parce qu'il faut comme s'avouer qu'il y a des modèles de pensée alternatifs à ce que moi-même, je pensais possible. Ouh, c'est de l'inconnu beaucoup, ça. Hein? Puis on aime ça, réduire l'incertitude avec nos croyances.
Ouais. Puis on est tous voués au changement, là. Que ce soit en croissance ou en décroissance, personne ne peut échapper à ça. Mais je me suis souvent posé la question, si jamais on mettait un humain seul, plongé dans la plus complète des solitudes, sans éléments extérieurs pour l'influencer, est-ce qu'il changerait? C'est-à-dire, s'il était seul avec ses pensées, est-ce que même lui, sans...
ça a été étudié.
Ah oui?
Ah, oui?
Oui.
Ah, j'adore pas.
Les personnes ont complètement viré fou.
Mais oui, parce que sans contact, sans rien, t'es juste dans ta tête tout le temps.
Le changement, ça a été ça. Ils sont venus vous.
Ouais, ben c'est dès qu'on prive quelqu'un de stimulation, il va se passer là, toutes sortes de mécanismes, là, même, voire même hallucinatoires. Il y a des gens qui le voient dans des week-ends de Vipassana. C'est 10 jours de privation.
Je connais quelqu'un qui est revenu là, qui s'est suicidé.
Ben, c'est, moi, je trouve le gros feeling d'après, là, la libération, le fun, l'extase d'après le 10 jours de silence... Là, c'est juste parce que tu recommences une stimulation normale. Mais il faut comme passer par un désert de stimulation pour retrouver temporairement l'appréciation des choses normales.
Parce que c'est ce qui se passe finalement. T'es privé de sens, donc t'es dans tes pensées. Ouais. Là, tu te connectes à tes sensations intérieures et tout. Et là vient l'illumination.
Mais encore plus rapide que ça, ils ont fait d'autres genres d'études dans lesquelles ils font des chambres anti-acoustiques, là, dans lesquelles il y a plusieurs couches d'isolant dans un building lui-même sur des suspensions avec des panneaux anti-réverbération du son. Là, on appelle ça des chambres anéchoïques, je pense.
OK.
Anéchoïques. Il n'y a aucune vibration de son sur les murs et tout ça. Puis si tu fermes les lumières et tu laisses une personne là-dedans, ça prend très peu de temps avant qu'il éprouve des symptômes de panique, calme, puis voire même des hallucinations.
Ah,
parce qu'on est construit pour vivre en interaction. Puis là, il y a eu des études qui ont été faites sur les prisonniers mis en isolement, retirés de toute forme de socialisation. Ils ne changent pas d'eux-mêmes en se disant « Oh là là, maintenant j'ai eu ma leçon, je ne vais pas être vilain garçon la prochaine fois. » Non, ils se disent plutôt « Ah, au secours! » C'est terrible l'absence de stimulation.
Mais je pense qu'avec l'accès aux réseaux sociaux et toutes les espèces de formations, les coachs en ligne, puis tu sais, il n'y a pas si longtemps, moi j'ai appris l'existence des styles d'attachement, langage amoureux, ça fait que quelques années que je m'intéresse à ça. C'est sûr que j'étais dans le domaine de la rencontre aussi, mais j'ai l'impression que les gens s'intéressent de plus en plus aussi à tout ça, à la croissance personnelle. Donc, je pense que les gens évoluent peut-être plus vite ou davantage que dans le passé.
Ouais, mais ça apprend avec une pincée de sel, ça aussi, la croissance personnelle. Parce que ça veut pas dire que si tu te développes vite, tu vas bien te développer.
Non, absolument pas.
Mais là, tu mélanges croissance et développement, toi, là.
Ouais, mais c'est quoi la distinction, si tu pouvais l'expliquer?
Croissance personnelle, c'est une phase d'acquisition. On ajoute du savoir. Mettons, je lis un livre, je vais faire une formation, je vais faire quelque chose, j'accumule du savoir. Ça, c'est la croissance. Alors que le développement, ça vient du latin « développeur », qui veut dire « sortir de l'enveloppe ». Donc, c'est on fait le tri, on va à l'essentiel en disant « dans le livre que j'ai lu, là, je garde une phrase, le reste, jette ça à poubelle ». J'ai fait du développement personnel à ce moment-là.
OK.
Puis tout comme on peut se faire écraser par le poids de trop de croissance, on peut mourir à se fendre le cœur si on fait trop de développement personnel. Si on ouvre la dernière petite enveloppe là, de nos dernières défenses, là, ça peut exploser notre cœur tellement vulnérable.
On tombe en suranalyse.
Ouais.
Il y en a qui sont constamment là-dedans. J'ai quelqu'un autour de moi qui n'arrive pas à trouver le bonheur. Il est constamment en train d'analyser. Puis pour lui, la vie, c'est de toujours se dépasser, d'aller plus loin. Et malgré son intérêt pour le libertinage et tout, dès qu'il rencontre une femme, si la femme, disons, est à tel niveau...
Ouais.
Mettons à son niveau, il faut toujours pousser plus, 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 plutôt que d'apprécier. C'est ça. Ou de s'accepter tel qu'on est et de profiter. Pour lui, la vie, c'est vraiment d'aller plus loin tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça.
Mais ce désir-là de toujours vouloir se dépasser, de toujours vouloir plus, est-ce que c'est pas justement une façon de dire qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes?
Ben oui.
C'est ça.
Il y a des gens qui réussissent à se dépasser, puis tellement qu'ils se sont dépassés qu'ils se perdent de vue à l'horizon. Fait que ça crée une autre sorte de problème.
Ouais.
Moi, j'aime pas ça en thérapie quand les gens disent qu'ils veulent se dépasser. Je dirais plutôt, faudrait peut-être plutôt que tu crées une alliance avec toi-même avant de penser te dépasser.
On parle pas de, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui consommaient, disons, qui ont cessé de consommer, qui se sont lancés dans des défis, des Ironman ou dans des trucs comme ça. Ça, c'est pour aller chercher la dopamine. Ouais. Puis
les défis, ça aiguise l'esprit ou le corps.
Ouais.
Mais ça nous met en risque aussi. Fait qu'il y a des gens qui vont tellement être mordus des défis qu'ils vont même perdre la vie là-dedans.
C'est fou.
On ne peut pas passer notre vie en étant pressé comme un citron. Là. Un moment donné, il faut que ça respire.
À vouloir
là.
Toujours essayer des nouvelles choses puis toujours se dépasser.
Ouais. Ça, je le vois toutes les semaines en thérapie.
Ah,
les
ouais.
gens dans l'hyperaction comme ça. Puis là, je leur demande, je dis, jusqu'à quel âge les gens normalement vont aux Olympiques, là, les athlètes, là, selon vous autres? Là? À quel âge on arrête là, d'aller aux Olympiques? Là, quand on...
Mon Dieu, trentaine peut-être.
Oui,
ouais, ouais,
35.
Puis là, je demande aux gens, puis toi, t'as quel âge? Puis là, les gens me disent, ben 50, 45. Je dis, ah, ça se pourrait-tu que ça explique certains de tes malheurs? T'as un comportement d'Olympien, mais t'as plus l'âge pour faire ça. Fait qu'il faudrait que tu transformes ton rôle par rapport à la performance. Puis là, il dit, comment qu'on fait ça? Mais il y a des gens qui vont devenir entraîneurs. Il y a des gens qui vont devenir coach. Il y a des gens qui vont devenir animateurs télé. Mais tu sais, il faut comme d'un moment donné transcender la passion ou
pour faut faire en sorte que ça nous fasse vibrer sans avoir besoin de pousser toujours à fond.
C'est ça.
Ah, puis faut pas chasser la perfection tant que ça. Là. Surtout dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, on nous présente la perfection comme l'objectif à atteindre. Je pense plutôt qu'il faut embrasser l'imperfection. Puis c'est très cliché. Là.
Oui, oui.
C'est presque une phrase de biscuit chinois, mais c'est ça pareil.
Dis-le avec un accent.
Très beau, ça pourrait être une courte,
non, ça va être
embrasser
correct.
L'imperfection.
Non, mais quand tu embrasses la perfection, tu donnes le droit à l'erreur.
Oui.
Tu
Et
donnes
oui.
le droit à prendre un pas de recul sur toi-même. Tu donnes le droit juste à être. Puis arrêter de te poser des questions
exact.
Sur comment être.
Oui. Mais ça ramène à ceux qui cherchent le bonheur à tout prix alors que ça devrait être ici, maintenant.
Exact.
C'est
toujours en train de courir. Toujours.
Les gens qui recherchent la haute stimulation, ça peut être un divertissement si c'est temporaire et transitoire, mais si c'est un mode de vie chronique, là, on peut pas vraiment être stable là-dedans. Puis là, moi, je dis à mes clients, il n'y a pas d'endroit confortable pour s'asseoir dans un volcan. Puis là, c'est bien beau bon chercher. Ça. Peut-être site. Ouch. Non, c'est ça, ça se peut pas.
Mon
ça.
Dieu Seigneur, c'est l'heure de la pause, mesdames et messieurs. On a passé le oui, c'est. J'ai pas vu le temps passer. Comme toujours avec Doximar, c'est notre principal problème. Restez les nôtres, mesdames et messieurs, et venez nous rejoindre sur le live de la Sexploratrice sur le TikTok Live pour voir les behind the scenes de cette émission de radio.
Je me mets à poil dans 2 minutes.
Venez sur le TikTok,
non,
la sexploratrice. Sur TikTok, la sexploratrice ou Dr Paul Simard, un psychologue. Vous êtes à l'écoute de la sexploratrice sur les ondes de choix 98 Radio X.
La sexploratrice.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
Ah, que de plaisir de jaser avec notre Dr Paul Simard, psychologue, qui est toujours très apprécié et avec qui le temps file à la vitesse de l'éclair. On a parlé des ex qui font du marquage émotionnel et bien plus avant la pause. Allez réécouter ça là, en rediffusion. Paul, j'ai... je pense qu'on va passer tout de suite aux emojis.
OK.
La signification des emojis.
Oui.
À moins qu'on embarque avec...
Un très bon début, ça.
J'adore ça, les emojis, moi aussi.
On va y aller avec les emojis parce que j'ai l'impression que les emojis ne sont pas interprétés de la même façon pour tout le monde.
Ah oui.
Ilala.
Moi, j'en entends parler de ça souvent en thérapie. Et moi-même, j'ai une opinion un peu là-dessus.
Oui.
Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la même interprétation de l'utilisation d'un emoji.
Ben non.
Donc, ça appartient à un code culturel, d'une sous-culture spécifique, qu'on peut maîtriser avec ce qu'on appelle la netiquette. Connaissiez-vous ça, d'ailleurs,
la
ce mot-là?
Netiquette, comme la netiquette?
Oui, c'est ça. C'est l'étiquette, c'est le code de bon savoir-vivre. C'est
net-tiquette.
Ça. Et sur le web. Oui, la netiquette.
Okay.
Fait qu'il y a des gens qui vont utiliser des emojis, mettons clin d'œil.
Oui.
Mais ce qu'ils voulaient dire, c'est emoji sourire.
On peut-tu. OK, en passant, là. On réagit comment à un clin d'œil?
Moi, je trouve ça baveux.
Ben, comme je te dis, il y a des gens qui ne font pas la différence. Moi, parfois, j'interpelle les gens, mettons, qui me font des demandes de consultation, puis qui m'écrivent avec des emojis clin d'œil. Puis là, je demande, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par ton appel à la complicité de ton clin d'œil? C'est-tu parce que tu veux sous-entendre quelque chose? Puis systématiquement, je me suis toujours fait répondre la même chose par les gens. Ben, j'envoie pas de clin d'œil, j'envoie un bonhomme sourire.
Oh!
Fait qu'il y a des gens qui ne le perçoivent même pas dans la configuration graphique qu'il y a une différence.
Ah oui, encore ça, moins c'est vrai. J'ai quelqu'un récemment qui a souhaité ses sympathies.
Avec un clin d'œil.
Il a envoyé le bonhomme qui rit, mais qui pleure.
Ah!
Oh. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit « Hey, qu'est-ce que ça fait là, non? »
Exact.
« Ben, j'ai souhaité mes sympathies. Ouais, mais tu ris. Mais non, je pleure. C'est un bonhomme triste. Non, c'est un bonhomme qui rit, qui pleure. »
Exact. Donc, tu vois que ça peut créer de la confusion dans certains contextes.
Vraiment. Mais tu sais, comme moi, là, j'utilise le cœur à outre. Ça n'a juste pas de bon sens.
Quoi?
Moi, j'offre des overdoses de cœur tout le temps dans tout ce que j'écris. Peu importe à qui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu mets un cœur?
Ben que j'envoie de l'amour puis de la lumière, là. Nous autres, notre emoji de conversation Messenger, c'est un cœur.
Vous êtes terrible.
Ouais, mais ça veut rien. Tu sais, c'est une façon
noir.
De.
Ouais, c'est
ça.
Un cœur noir, fac. C'est comme.
C'est love, man.
Love,
je sais pas,
man.
Là.
Mais nous autres, on s'aime puis on se le dit, là.
Ben, vous avez développé une sous-culture qui n'appartient qu'à vous, on pourrait dire. Un code de complicité que vous savez, vous, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelqu'un qui observerait ça de l'extérieur, peut-être qu'il dirait c'est bizarre.
Ben,
ouais. Mais c'est pas de leur affaire.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
D'où
c'est
l'importance.
C'est de leur affaire.
Quand on échange avec plein de gens, des fois, il faut savoir se partager
exact.
Les codes.
C'est pour ça que moi, quand j'échange avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude d'échanger, je ne mets jamais d'émoticône. Mais en général, je suis plutôt du genre à me garder un devoir de réserve sur l'utilisation des emojis. Et je pense que ça fait en sorte que quelqu'un. Je me considère comme quelqu'un de bête à cause de ça. Ah. Et je me l'ai déjà fait dire. Hey, comment
c'est
ça, tu mets pas d'emoji? Ouais, c'est ça,
t'as
écrit une phrase avec un point. Ouais, t'es bien bête. Mais comment ça, je suis bête? Mais t'as mis ta phrase avec un point. Ah, tu parles selon les vraies normes du français? Ouais, t'es bête. Ouais, je suis pas certain. Là.
T'as écrit en majuscule, tu cries?
Exact, c'est vrai,
c'est ça.
Ça appartient à l'étiquette, ça aussi.
Moi, des fois, c'est juste. Ah, j'écris trop vite, là. C'est pour je l'envoie. Mais, tu sais, moi et mon copain, on est super expressifs, là, sur les réseaux sociaux. Des feux, des cœurs, ça à tout le monde, là, tu sais, que sous une publication. Mais là, je me rends bien compte que c'est pas vu de la même façon pour tout le monde.
Moi, je pense que ça renvoie beaucoup au sens de l'intimité. Tu sais, il y a des codes d'intimité qu'on partage avec certaines personnes, puis il y en a d'autres que c'est plus universel. Tu sais, puis le langage est tellement imparfait. Tu sais, c'est le même mot qu'on dit, genre, je t'aime pour dire. Le mot j'aime plutôt pour dire j'aime le spaghetti, j'aime la couleur rouge, j'aime mon enfant, j'aime. Ma conjointe. Fait que, ça crée de la confusion chez certaines personnes, un seul mot pour décrire autant de contextes différents.
Ouais.
C'est vrai qu'on a des codes différents avec tout le monde. Quand je regarde avec ma blonde, on utilise beaucoup les emojis parce que ça fait partie de la routine qu'on a établie par nos échanges numériques. Mais par exemple, si j'écris à mon boss, j'enverrai pas d'emojis.
Non, jamais.
Il y a des règles, il y a
jamais.
Des codes. Il y a des façons de faire tout dépendamment à la personne avec qui tu t'adresses. À
effectivement
qui tu t'adresses.
Que personnellement, professionnellement, je ne mettrai pas par courriel et tout ça, je ne mettrai pas d'emoji. Ben, excepté.
Mais ça fait tout croche.
J'en
mets
quand
emoji,
même. Pour vrai, là, quand je pense, je mets des cœurs.
Dans tes courriels?
Oui. J'ai réalisé ça.
Mais t'as quand même une business de contact. Il y a quand même une nuance. Là.
Ben, moi, dans ma business, quand les gens me contactent par courriel puis ils mettent des emojis bec-cœur, je recadre systématiquement les gens.
Oui.
Parce que
bec-cœur,
je trouve que ça
j'avoue
prend.
Que ça, par exemple, c'est ça. Bec-cœur, c'est mon chum.
Bon, ah, tu sais, tout d'un coup, là, c'est rendu chum. Ah, comment ça? Ben, moi, je trouve qu'en effet, ça a un sens de la transgression rendue là. Ça, moi, à mon sens, le bec-cœur, ça ne devrait appartenir qu'à la relation. Mais il y a des gens qui mettent ça sur le plan amical, puis sur
des
le
fois,
plan universel. Fait que c'est pour ça que ce serait important de savoir communiquer avec vos partenaires. Est-ce que toi, tu partages certains codes? C'est tout comme on explique à nos partenaires qu'est-ce qui nous turn on sur le plan sexuel ou amoureux. Ben, des fois, il faudrait peut-être avoir une discussion sur les emojis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Les marqueurs émotionnels, justement, est-ce que c'est acceptable? C'est comme les becs sur les joues ou sur la bouche. Il y a des gens qui donnent des becs sur la bouche aux membres de leur famille.
Ouais.
Et peut-être qu'il faut
skipper ce moment-là.
Ouais,
non, mais le moment des becs, là, quand t'arrives dans un groupe, là, moi, ça, je skipperais ça.
Mais peut-être qu'il faut que ce soit établi dans la vie réelle aussi, ou qu'il y ait des bases solides pour pouvoir, par exemple, tu sais, moi puis Mel, on s'envoie des cœurs, mais je sais qu'il n'y a rien en arrière de ça.
On
parce
se
que
met pas de colonne,
dans la vie de tous les jours, on est sur une base de chummy-chummy. Fait que le cœur, pour moi, veut rien dire de plus que hey man, what's up.
C'est-tu pour ça que tu m'as jamais envoyé de cœur quand on s'est parlé sur Messenger?
Ouais, mais. Mais j'ai pas la proximité que j'ai avec toi qu'avec Mel, tu comprends?
C'est vrai, c'est vrai.
Puis en même temps, ben j'envoie des cœurs à mes chums, des fois, tu sais. Tout dépendamment. Ben, pas toutes mes chums. Mais certains chums que je connais depuis l'enfance, par exemple.
Moi aussi, des becs cœurs, j'en envoie à mes chums. De filles, de gars. Mais mes amis proches.
Aussi.
Ouais. Mais tu sais, c'est mes amis, chums et buddy de la maternelle, puis de la troisième année.
Comme vous voyez, moi, j'ai un devoir.
On dormait dans la même vie, il se passait rien.
C'est ça, j'ai un devoir professionnel, moi, comme psychologue, hein, d'éviter la confusion. Fait que quand je vois apparaître ce genre de marqueur émotif-là, moi, je suis très à l'affût de voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça se peut que je surinterprète cette partie-là dans ma vie personnelle.
Mais là, si on te dit « je t'aime, mon ami », vas-tu penser qu'il y a de l'amour derrière tout ça? Ou?
Je trouverais ça un peu étrange.
Hein? Puis si on part de la
moi,
base...
Moi, je t'aime à toutes mes amies.
Ben, c'est ça, connaissant la personne, il y a des gens qui sont plus conviviales que d'autres, plus expressifs que d'autres. Fait que là, on interprète à nouveau.
Je porte en mots, mais pas en... T'sais, j'aime pas la proximité. Ouais.
Il y a des gens qui vont utiliser un peu comme des expressions.
C'est tellement dichotomique ce que tu dis. Là. J'aime tout le monde, mais touchez-moi pas.
Non, c'est ça. J'ai ma bulle.
Mais c'est comme appeler tout le monde, mettons, mon petit babe ou mon chéri ou ma chérie. Il y a des gens qui trouvent ça totalement
ça fait Roland,
normal.
Là. Sans offense au Roland.
Non, il y a des gens qui trouvent ça totalement normal.
Mais moi, j'ai une couple d'amis de filles que j'appelle mon babe.
Bon, pourquoi?
Mais c'est mes amis d'amour, là.
Fait que c'est un petit code qui témoigne une complicité puis un désir de rapprochement ou de complémentarité. Ou de...
Peut-être.
Pour dire, on est ensemble. Moi, je vois ça comme un marqueur de nous.
Oui, c'est vrai. Très intéressant.
Mais j'aimerais qu'on revienne à la base. Là. Puis j'ai envoyé cette phrase-là, « Into the void ». Les phrases qui sont dépourvues d'emoji.
Ouais.
Il y a les phrases qu'on envoie juste comme ça, sans point. Il y a les phrases avec point. Il y a les phrases avec point d'exclamation. Des fois, deux points d'exclamation. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une variété d'émotions qui sont reliées à chacune de ces phrases-là. C'est-tu moi qui se trompe ou une phrase avec un point? C'est bête. Une phrase avec un point d'exclamation, c'est comme friendly, amical avec deux. Des fois, c'est trop. Puis avec trois, hey, mon Dieu, c'est une excitation incroyable. Ouais. Et une phrase sans point, juste basique, là, c'est comme neutre.
Il y a des gens qui ne verront pas ces nuances-là.
Hey, moi, je vois pas ces nuances-là.
Non, c'est ça.
Ben, c'est là que je voulais en venir.
Puis j'avoue que je peux avoir l'air très bête quand j'écris. Parfois, j'écris très expressivement, même pas de « salut, ça va? » Quoi. C'est comme « pa 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 ».
Donc, si... ça dépend vraiment de notre interprétation puis des lunettes qu'on a vis-à-vis quasiment... le message.
Il y a quelques années, il y avait eu un clip là, de « Like moi là, » là-dessus, là, humoristique, là, de plusieurs personnes ensemble autour de bord qui disaient « Là, envoie-y un sapin mélangé avec une canne de Noël puis une demi-lune. Ah, wow, il t'a pas dit une demi-lune, wow! »
Oui!
Mais ça renvoie à toutes sortes de codes d'intimité.
Ça prendrait presque un atelier sur le code universel.
Mais en même, le code universel peut-être, mais en même temps, on l'interprète tout pas de la même façon.
Exact.
Il y a quelqu'un dans le chat du TikTok qui mettait les deux bonhommes, tu sais, un petit bonhomme un peu timide, puis l'autre qui sourit juste timidement. C'est quoi la différence entre les deux? Ça veut dire quoi?
C'est vrai, ça.
Tu sais, c'est fou, là, les bonhommes, là, sont... ou le bonhomme la tête à l'envers. Il veut dire quoi, lui?
C'est vrai, il veut dire quoi, ce foutu bonhomme-là?
Oui, puis il y a des gens qui détestent recevoir un pouce en l'air.
Ah oui! J'ai une aversion totale et complète contre
c'est
ça.
C'est vrai que c'est insultant.
Mais je l'ai pas l'air des gens que j'aime, mais quand je te connais pas et tu m'envoies un pouce, je vais le goût de te slugger.
Si tu prends la peine d'écrire un beau mot, tu reçois un pouce en l'air.
Ouais, ça, là.
Ou juste un j'aime.
Il y a un cas, d'ailleurs, qui est arrivé en Alberta, comme quoi qu'il y a une personne qui a donné un clic j'aime sur une commande d'un agriculteur, puis le fournisseur de service a dit « D'accord ». Dans le fond, il m'a dit qu'il voulait il a envoyé la commande, mais lui, ce qu'il voulait dire, c'était juste « C'est beau, j'ai compris que tu m'offres ça, je te reviens ». Mais là, le juge a tranché. L'emoji pouce voulait dire « J'accepte ton offre, envoie-moi ça ». C'est considéré comme un « oui, je seconde ce qui a été dit précédemment ». Ah oui, je savais pas, mais qu'il y avait une portée légale à utiliser un pouce « j'aime ».
Aïe!
Eh oui!
Mais c'est fou la distinction qu'on fait pas entre les deux. Là. C'est-à-dire, dans la vraie vie, faire un pouce à quelqu'un, c'est « cool, yes, man ». Puis sur messagerie, on dirait que c'est le pire des affronts.
C'est vrai.
C'est passif-agressif en fait, un peu.
C'est passif-agressif, exactement.
Ben, une des hypothèses, ça serait le biais de disponibilité.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une erreur de raisonnement, ce qui fait que sur beaucoup de plateformes de messagerie, notamment Messenger, c'est l'emoji par défaut. Fait que quand les gens ne prennent pas le temps de répondre puis qu'ils cliquent sur la première affaire disponible, donc le petit clic...
Il n'y a pas d'investissement.
Il n'y a pas d'investissement, c'est que c'est considéré comme passif-agressif. Et sur beaucoup d'autres plateformes, maintenant, ça a évolué, ça s'est transformé. L'emoji par défaut, c'est, comme mettons sur TikTok, c'est un cœur.
C'est vrai.
Oui.
Fait qu'il y a plein de plateformes qui migrent vers ça.
Puis là, on va régler quelque chose, là. Les vocaux, là.
Ouais. C'est bien mieux.
Si, là.
Pouah, ça dépend.
Mais non, mais je comprends pas. Des fois, je suis comme, je laisse un message vocal, l'autre personne me laisse un message vocal, laisse un message vocal, elle répond par un message vocal, je laisse un message vocal. Pourquoi qu'on s'appelle pas?
Non, ça, c'est parce que c'est un lourd fardeau. Moi, j'ai fait une étude auprès de 400
pourquoi
psychologues.
Pourquoi on s'appelle pas rendu là?
Puis il y en a 200 que j'ai appelés par téléphone. Puis je te dis que essayer de rejoindre un psychologue en personne là, qui est disponible au moment où toi tu veux l'appeler, pour le moment lui il n'est pas en consultation ou il est encore en train de travailler, la fenêtre d'opportunité est mince en maudit. Alors, la communication, chacun son tour, quand on a le temps, on appelle ça la communication asynchrone, ça facilite beaucoup les échanges pour les professionnels de la santé, notamment comme moi.
Mais ça peut être bien, là, mais tu sais...
Ça manque de sincérité, ou ça?
Ben, je trouve que ça manque de contact, puis de...
Les
c'est rendu
vocaux.
Que le monde ne veut plus se parler en direct. On dirait que les gens ne savent plus comment gérer les conversations.
Ça crée de l'anxiété sociale chez certaines personnes.
Oui, c'est ça, c'est pas bon, ça.
Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devoir répondre sur le coup, là. Ils ne contrôlent pas. Alors que quand ils répondent et qu'ils sont prêts, là, ils peuvent être plus à leur aise dans leur réponse.
Ouais. Moi, j'appelle.
Hein, quoi? Ah,
mais ça, c'est invasif, là.
Moi, je raccrocherais.
Ouais, ah,
aujourd'hui,
sais.
C'est invasif, là. Il fut un temps où les gens allaient cogner chez les autres.
What the fuck?
Hein? Sans appeler, là, avant. À cette heure, t'appelles, puis tu vas cogner ça, après, puis t'es déstressé.
T'étais intéressé par une fille ou un gars, fallait que tu l'appelles.
Mais
pour
oui.
L'inviter.
Mais à cette heure, appeler, c'est invasif.
Imagine.
Moi, les messages vocaux, je trouve ça parfait parce que justement, tu peux y répondre au moment que tu veux.
Exactement.
Ben, oui. Ça nourrit pas mon amour de la prose et du français, mais ça, je vais m'en remettre. Par contre. Les messages vocaux de plus de 3 minutes, c'est un gros non!
Deux minutes!
Mais là, ils ont mis l'option avance rapide depuis un certain temps.
Ah
là,
oui!
On parle tout comme des chipmunks.
Merci, mais quand même, c'est plus que 2 minutes à m'amener, là. C'est lourd.
J'en ai reçu un de mes amis, d'ailleurs, de 9 minutes la semaine passée.
Ah, puis c'est surtout des fac. C'est ça. Puis, il m'a dit oui. Puis après ça, j'ai dit quoi? Non. Puis c'est de même pendant 9 minutes. T'as envie de t'arracher les oreilles.
Oui, mais le sens de l'intimité. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont construire de l'intimité par les appels téléphoniques, alors que d'autres vont construire de l'intimité par les emojis. Puis il y en a d'autres, ça ne veut absolument rien dire.
Puis il y en a d'autres qui vont se fier à... mais ça, on pourrait peut-être en parler aussi. Là, tu sais, laisser des likes. Puis...
Ah.
Laisser des likes pour montrer qu'on est là ou tenter de soulever un petit salut mettre une story. Puis j'ai vu une compte récemment, c'était laisser la story jusqu'à ce que mon crush la voie.
Ah, ben oui, c'est bien connu ça. Il y a des gens
autour de moi, là, elle fait ça. Là, tout ce qu'elle souhaite, c'est que son crush voit sa story puis elle poste des trucs que pour lui. Je suis comme
c'est ça. Mais chez les gens qui sont très sensibles à la comparaison, là, c'est un phénomène extrêmement fréquent. Des gens qui y mettent une publication, mettons, sur Instagram, puis s'ils n'ont pas eu un certain nombre de seuils de clics j'aime en une heure, ils effacent la photo. Puis là, ils vont le reposter à une autre heure différente. Puis là, s'ils n'ont pas encore un nombre, ils effacent la photo. Ils sont tellement sensibles, sont à la merci du feedback externe pour définir leur monde.
Ça, là, c'est
internet.
Des algorithmes. T'as même pas le contrôle là-dessus. C'est fou, là.
Avais-tu une bonne cette semaine? Puis je salue... je pense qu'elle s'appelait Chantal. J'ai reçu un poke.
Ouais, j'ai découvert que ça existait.
Je savais même pas que ça existait encore, ça.
C'était
la surprise sur mon visage. Vous avez reçu un poke.
Poke?
Un poke, c'est ça.
Un poke, c'est quoi? C'est comme ping.
Ping, c'est ça. Hey,
c'est pas c'est quoi.
Imagine, on transfère dans la vraie vie le comportement qu'on a sur les réseaux sociaux.
Quoi,
c'est
quoi?
C'est quoi?
La conduite de quelqu'un, c'est ping.
Mais c'est quoi? C'est complètement bizarre, un poke. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière du poke? Si tu veux me parler, dis-moi salut, Chantal.
C'est ça.
Un poke? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, là?
Mais sur TikTok, c'est le... Hello!
Ouais.
Je sais pas, j'ai pas TikTok.
Quand tu connectes avec quelqu'un sur TikTok, là, ça te discuter maintenant, ça rend comme un bye-bye, là. Non?
Non, j'ai pas ça. Peut-être une innovation iPhone encore. Moi, je t'aime ça.
J'arrive pas à avoir ma messagerie comme du bon.
Puis toi, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu mesures l'amour d'une photo que tu mets sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, est-ce que le nombre de personnes qui vont donner de l'amour à la photo, qui vont mettre des j'aime, qui vont mettre des cœurs, qui vont mettre peu importe, ça va faire en sorte que tu vas aimer la publication que t'as mis, puis si t'en as pas assez, tu vas l'enlever?
Non.
Est-ce que ça m'est déjà arrivé,
ça m'est déjà arrivé, par contre, d'en enlever une parce que c'était justement le partage en lien avec un événement. que là, je voyais bien que sur 19 000 fans, il y en avait trois qui l'avaient vu après une heure. tu vois la portée. J'ai comme fait, on a un petit problème d'algorithme ici, on va la reposter. Mais si personnellement, je poste quelque chose, bien là, je lâche prise sur le nombre de likes puis tout, parce que j'ai aucun contrôle là-dessus. On n'a pas le contrôle sur... Tu sais, mon amoureux poste quelque chose, là, je le vois même pas dans mon algorithme. Faut que j'aille sur sa page pour le voir.
Ouais.
Je vois même pas les trucs de mes propres amis passer. Tes trucs, pas, je les vois pas passer. Si je veux voir tes trucs, faut que j'aille sur ta page. Donc, arrêtez de mesurer ça. Ça veut pas dire que les... On a un ami, là, récemment, il a perdu sa conjointe. Il a partagé la vie de décès. Samedi, c'était les funérailles. Samedi au dimanche, on était comme, « Hey, t'étais-tu au courant de ça? Hey, non, hey, je suis pas au courant. » On va sur son mur dans une couple de publications. Il l'avait posté. Personne ne l'avait vu.
Ça n'avait pas été recommandé.
Tabarouette! Fait que là, on s'est ramassé dernière minute. Il y en a une gang qui sont allés, d'autres en plus à l'extérieur. Tu sais, c'est pas évident, là. Donc, fiez-vous pas à ça pour noter si vous êtes apprécié ou pas, là. Ça n'a aucun rapport. Puis la journée, je le dis souvent, là, mais la journée où je me suis libérée du regard des autres puis que j'ai fait des trucs pour moi, tant que je fais du bien autour de moi, je pense que ce que les autres pensent, je m'en... T'sais, à moins que je reçoive un commentaire négatif, mais constructif, je vais le prendre. Mmh. Autrement, je sais pas vous autres, là, mais vous autres, êtes-vous... Si tu as une publication qui fonctionne pas bien, est-ce que tu vas te sentir mal?
Ça me dérange pas.
C'est ça, là, maintenant qu'on comprend qu'on n'a aucun contrôle.
C'est ça. Moi, je vois un peu Internet comme un buffet. Puis je me dis, on met pas du caviar dans un buffet. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens. Puis plutôt que de tomber dans le piège de payer plein de publicité, moi, je valorise beaucoup plus le référencement naturel. Puis, un peu comme dans un buffet, je remplis le buffet.
J'aime ça, cette façon de voir.
Vraiment?
De voir les choses. On met pas de caviar dans un buffet. J'adore ça.
Oui.
Et oui, avec les emojis, la netiquette, une culture très particulière, pas toujours facile à comprendre. Puis, c'est-tu déjà arrivé, toi, quelqu'un t'envoie beaucoup, beaucoup d'emojis, mettons, d'appropriation, en plus, qu'ils disent « ma belle », avec des becs-cœurs, mais que toi, tu dis « non, non, moi, je nourris pas ça », mais que la personne persiste en envoyant un bec-cœur.
Ça, on fait quoi contre ça?
Mm-hmm. Il y a des gens qui vont
contre l'agression d'emoji?
Ouais. Ou l'envahissement de séduction déguisée?
Ouais.
Ben, c'est
parce
là
que ça se peut, mais en même temps, ben moi, j'ai bloqué au pire.
Tu
là,
envoies un pouce.
C'est ça.
C'est
un pouce? Non, le pouce, ça pourrait être considéré comme de l'approbation. Donc, oui, vas-y, continue.
Ah,
tu le laisses sur un vu. Tu ouvres le message, tu réponds pas.
Ouais, c'est ça. Mais le ghosting. Le vide, c'est considéré ghosting, comme un espace dans lequel la personne en état de désir, notamment, va remplir cet espace vide-là en disant OK, elle est correcte. Peut-être que ça va passer cette fois-là ou la prochaine fois. Fait que c'est pas évident. Chaque personne est libre de mettre sa limite où ils veulent. Il y a des gens qui vont même tolérer du harcèlement pour pas déplaire aux autres.
Hmm. Ouais, mais là, à un moment donné, je veux dire, ça t'appartient aussi. Là.
C'est vrai.
C'est quoi votre école de pensée sur le ghosting?
Ben, ça dépend. Là.
Un bon vieux que... Irish goodbye. Là.
Moi, je pense que c'est une attribution donnée par quelqu'un d'autre et non pas une identité fondamentale. T'as-tu déjà vu quelqu'un qui dit « Ah oui, moi, je ghoste les gens dans la vie. Ben, » C'est plus quelqu'un qui s'est fait ghoster qui dit « Lui, c'est un ghoster. »
Oui, c'est vrai.
Mm-hmm. Puis à l'origine...
On a tous ghosté quelqu'un,
je pense.
Mais je trouve que c'est un grand manque de respect... Si c'est une conversation qui est engagée et que du jour au lendemain, tu cesses d'écrire tout simplement parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, c'est un gros manque de respect.
C'est ça. Mais c'était pas ça, le ghosting, à la base. Quand ça est apparu la première fois dans la littérature, là, c'était une artiste américaine super populaire qui accusait son ex, aussi artiste, de l'avoir ghosté.
Ouais, mais là...
Mais la réalité, c'est qu'elle l'harcelait.
C'est ça.
Lui, il a juste arrêté d'y répondre.
Exact. C'est pas du ghosting, ça. Moi, je considère pas que c'est du ghosting.
Comme on voit, ça a été accusé. Tu utilises, vu qu'il y avait un manque, un trou, donc plutôt que dire ça doit être moi qui ai un mauvais comportement, accuser l'autre personne d'être responsable de son malaise et de l'avoir ghosté. Mais aujourd'hui, c'est tout déformé. Là,
c'est déformé, mais le ghosting peut vraiment laisser des traces. Ça peut venir qu'à créer des blessures là, à l'intérieur, quelqu'un qui se fait ghoster à plusieurs reprises.
Ah oui, ça blesse. Là.
Mais oui, fait que c'est pour ça que moi j'ai mis la touche anti-ghosting dans Ghost You, c'est que si tu as envie de mettre un terme à une conversation, mais ça te rend mal à l'aise, ben tu appuies sur le petit fantôme. Ça envoie un message automatisé. Je te remercie pour le temps accordé. Ça n'ira pas plus loin. Et la conversation se bloque.
Ouais, mais il y a quand même le fait aussi que tu ghostes jamais vraiment quelqu'un que tu côtoies dans la vie réelle. Donc, si tu la côtoies pas dans la vie réelle, ghoster, c'est peut-être un peu à nous aussi d'apprendre à le gérer. Là. C'est pas la fin du monde. La personne ne veut plus te parler. Prends sur toi, là, puis fais ton bout de chemin.
Oui, mais c'est juste... Ben, oui, mais ce serait le fun d'expliquer à l'autre pourquoi. Tu sais, je veux dire, si t'es
pourquoi
pas intéressé...
Pourquoi il aurait besoin de le faire?
Comment?
Pourquoi? Pourquoi on aurait besoin de faire ça à tout prix?
Mais pourquoi pas?
Ben, pourquoi pas aussi?
Ça demande de l'énergie. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir l'énergie ou qui va avoir le climat sécuritaire pour le faire.
Si quelqu'un t'intéresse pas pour X raisons, ça pourrait peut-être valoir la peine de lui dire. Si elle fait quelque chose qui te gosse, ben peut-être que cette personne-là devrait savoir qu'elle fait quelque chose de gossant.
Ben oui, mais elle fait quelque chose de gossante, mettons, à tes yeux, à toi, mais elle, c'est peut-être naturel chez elle. Fait que tu vas-tu aller briser la confiance de quelqu'un pour ça?
Ben, je pense que de la ghoster, ça peut aussi briser quelque chose chez elle.
Je trouve ça moins peu. Je trouve ça moins peu, mettons, sur l'échelle que de lui dire.
Moi, j'ai mis la touche anti-ghosting parce que je t'ai tenu que le monde m'écrive hey, un bug, la personne ne me répond pas. Puis là, je vérifiais de l'autre bord. Puis là, la personne me dit ben non, mais c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je savais pas comment te dire.
Ouais, il y a ça aussi.
Ça, c'était pour ça.
Les gens de la misère avec le rejet, hein, c'est tellement douloureux, oui. C'est sentir que quelqu'un d'autre ne nous choisit pas. Que...
Ouais, mais tu sais, je pense que ça se dit, ça s'explique. Je sais pas.
Ah, y a une personne qui me dit, moi, dans mon chat, que si tu as amorcé une relation, tu es responsable de la terminer correctement.
Très bien dit. Je trouve ça beau. Oui. Oui,
mais c'est ça. Puis, c'est encore là, là. Une relation qui n'est pas dans la vie réelle, est-elle vraiment une relation? Tu sais, oui, il y a des relations en ligne qui existent, il y a des liens. Ça, c'est indéniable. Mais rendu là, on dirait qu'il n'y a pas de réalité là-dedans, même s'il y a une réalité émotive.
Non, mais t'as créé un lien.
Il y a une zone grise, là.
Donc, selon moi, ça mérite une fin. Là. Ça mérite de terminer la conversation correctement, dans le respect.
Mais c'est tellement exigeant qu'il y a des gens qui vont aller vers ces mécanismes-là de rencontre virtuelle parce qu'ils n'ont pas la compétence de rencontre interpersonnelle, justement.
C'est vrai, il y en a qui accumulent ça, qui vont repousser au maximum
la rencontre réelle. C'est ça, fait que développer cette compétence-là, c'est essentiel. C'est notre ami, là, David, qui a son école en séduction.
Ouais.
Il enseigne des compétences... de relationnel. C'est pas parce que ça parle de séduction que c'est axé sur des techniques là, exclusivement mécaniques. Non, c'est beaucoup basé sur le développement de compétences.
Oui.
Donc, c'est une forme de coaching qui se veut humain, mais qui en même temps équipe le monde. Moi, j'endosse vraiment ça, l'idée là, de développer des compétences chez les individus.
Absolument. Puis, tu sais, je vais être bien franc avec toi, là. Je suis complètement d'accord avec toi. Là, dans toutes les fois où.
Ben
j'ai
là, t'es complètement d'accord, mais tu me dis, mais pourquoi?
Parce que j'essaie de me mettre à l'inverse. À chaque fois que j'ai mis un terme à une relation, ça m'est jamais vraiment arrivé de ghoster à proprement dit. J'essaie d'expliquer les choses, mais quand je me le suis fait faire, j'ai pas capoté avec ça. Je me suis dit, bon, mais regarde, cette personne-là, regarde, elle a ses raisons, puis pourquoi j'essaierais de les comprendre? Peut-être que je les comprendrais même pas parce que ça tient sur du fictif, ça tient sur de l'irréel. C'est des interprétations bien souvent.
T'as une forme d'intelligence émotionnelle peut-être plus développée, ou je sais pas, mais moi, personnellement, je me ferais ghoster, puis je ferais comme, pff, OK. Tu sais, je m'en foutrais aussi un peu, mais je pense qu'il y a des gens qui cherchent l'amour sincèrement, sérieusement, qui se font ghoster, qu'eux, ça les décourage.
Ouais. Mais c'est difficile, l'engagement. Hein? Il y a des gens qui vont vous laisser des petites traces comme ça dès le début. Dans le fond, ce que ça sous-communique, peut-être quelqu'un qui disparaît ou qui boucle pas, c'est « je ne souhaite pas m'engager » ou « je n'ai pas la compétence pour pouvoir m'engager ». Parce que je suis même pas intéressé à boucler adéquatement de conversation. Comment il pourrait boucler une relation adéquatement? T'sais?
Exact. Mais le message est peut-être là. Faut apprendre à pas s'endurcir, mais à développer des compétences pour apprendre à gérer ça.
C'est ça, il y a la tolérance à l'incertitude.
Bon, voilà.
Il faut être prêt à savoir que ça va être
rock'n'roll. On va en faire un prochain sujet.
Ça fait partie de la game.
Oui, parce qu'on a déjà dépassé le temps, mesdames et messieurs.
C'est fini!
Toujours un plaisir, Dr. Paul Simard, psychologue qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Oui. Facebook, Instagram, TikTok. Sur le web,
oui.
TikTok.
Dr. Paul Simard, psychologue. Puis s'il y a des gens qui veulent des consultations, écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer tous les détails.
Merci, Paul. Merci, Max.
Merci.
Toujours un plaisir de travailler avec toi.
Pareillement.
Merci tout le monde. Marianne, Gab, Joe, Fred, tout le monde sur le live. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Merci tout le monde sur le live TikTok également. On avait Sarah-Catherine qui mentionne que les rencontres virtuelles sont idéales pour les autistes parce que Sarah-Catherine est atteinte du spectre de l'autisme et on va éventuellement parler avec elle là, quand on va réussir à trouver un moment avec elle. Donc, elle va être une de nos invitées. Elle est dans le live TikTok présentement. C'était un plaisir ce soir, encore une fois. Merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.